Et nous entendons la lecture d'aujourd'hui qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 38 à 48, pour ceux qui veulent suivre en même temps sur leur Bible. Matthieu 5, 38 à 48.
L'accomplissement de la loi et des prophètes. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Nous sommes donc toujours ce dimanche dans le sermon sur la montagne. Dans le premier chapitre, nous en avons encore donc pour un petit moment. En relisant ce texte ensemble, nous pourrions nous demander ce que nous écririons ou ce que nous dirions si on nous demandait de résumer ce qu'est l'Évangile, ce qu'est la Bonne Nouvelle, puisque ce sermon sur la montagne s'est présenté comme un programme, un sommaire. Les choses essentielles qu'on dit d'abord et qu'on s'apprête à développer par la suite en les déployant un petit peu. Nous sommes face à un programme. Que serait l'Évangile si on nous le demandait, et s'il fallait le résumer de façon concise? Nous mettrions certainement l'accent sur la nouvelle loi où l'amour prime sur le reste. C'est ce que Jésus souhaite apprendre à ses disciples en leur donnant d'abord ce programme et puis en le déployant parabole après parabole pour qu'ils le comprennent autant que possible. Et nous aussi, à leur suite. C'est à cela que Jésus s'emploie dans le sermon sur la montagne, puisqu'il le dit dès le départ, la loi ne disparaît pas, il n'en disparaîtra rien, pas un petit trait de lettre, pas un iota. Mais il est plus que temps de dire comment elle doit s'accomplir en esprit. Et l'arrivée de l'amour et de l'esprit n'adoucissent rien du tout, comme nous l'avons vu. Au contraire, c'est maintenant que vient la plus grande exigence. C'est maintenant qu'il va falloir intégrer la loi et transformer son esprit, l'esprit de cette loi, en parole et en acte. C'est autrement plus difficile que de l'apprendre par cœur et de la réciter. Voilà pourquoi ce que Jésus dit est au fond bien plus sévère, plus exigeant encore que les préceptes de Moïse. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'en finir avec Moïse et enfin passer à autre chose. Ce n'est pas l'objet de cet enseignement. Il faut plutôt saisir la profondeur de la loi, jusqu'où, en nous d'abord, elle est capable d'agir. Le commandement est donné en second, nous le savons, ce n'est jamais ce qui vient d'abord. Il suit l'affirmation de la liberté, il ne la précède pas. Et une fois cette liberté acquise, la loi est donnée comme guide, et après, il reste l'amour, c'est-à-dire il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire encore la vie dans la confiance, avec comme programme ce que l'on doit à Dieu et aux autres, et s'y mettre vraiment. C'est dans cet ordre-là, cette succession-là, que les choses se font. C'est effectivement la question de la foi, ou si vous préférez, de la confiance, c'est-à-dire ce qui permet de comprendre les propos de Jésus ici sans les confondre avec un durcissement, voire une radicalisation, même si c'est un barbu du Moyen-Orient. C'est la confiance qui permet à un peuple récemment libéré d'apprendre jour après jour à faire confiance à l'auteur de cette libération. Tu es libre, certes, c'est fait. Et maintenant, voici ce que j'attends de toi. C'est la même confiance qui nous permet aujourd'hui de déceler la présence de Dieu dans notre histoire comme une source de liberté déjà acquise, mais dont nous devons tirer toutes les conséquences. Si notre confiance est de cette nature, notre foi, si vous préférez, la pratique de la loi ne pourra plus jamais être pour nous un formalisme plat, voire creux, où l'on cherche à séduire un Dieu procédurier par notre rigueur réglementaire. Ça ne peut, ça ne pourra plus, ça ne devrait jamais être ça. Ce qu'on appelle la foi ne peut plus, d'après ce sermon sur la montagne, être une source d'exercice spirituel où l'on transpire beaucoup et à l'issue duquel on obtient une récompense. La foi n'est pas et ne sera jamais une manière d'obtenir une liberté qu'on nous a déjà donnée en remplissant correctement un formulaire ou en priant très très fort, en joignant les mains à s'en faire péter les cartilages. Finalement, soyons seulement logiques. On ne mérite pas un cadeau. La non-foi ou la méfiance, c'est recevoir un cadeau et en demander immédiatement le prix. C'est vulgaire, non ? Il y a de l'ingratitude et de la vulgarité chez nous, que voulez-vous ? Heureusement pour nous, le sermon sur la montagne nous apprend une bonne nouvelle, l'évangile du jour, c'est celui-là. Elle n'est pas incurable. Mais si le programme de Jésus apparaît comme libérateur, il est aussi terriblement exigeant. Et nous n'aimons pas spontanément ce qui nous donne du travail. Parce que, comme Israël sortant du désert, tout reste à faire. Une liberté acquise doit encore s'incarner en parole, en acte, dans une forme durable, un certain art de vivre, pourquoi pas. Il est vrai que nous avons quelques raisons de douter et de nous inquiéter dans notre pays, sur ce continent, mais au fond, partout ailleurs dans le monde. Les problèmes gigantesques ne manquent pas. Mais en dehors de ces problèmes considérables, c'est vrai, je crois qu'une part de notre méfiance ou de notre inquiétude ou de notre non-foi, qui elle aussi n'est jamais permanente, vient du fait que nous supportons mal le décalage entre ces exigences, d'une part, et notre propre capacité à les mettre en pratique, et aussi la fermeture de nos sociétés à ces exigences, d'autre part. La confrontation entre les deux est décourageante, c'est vrai. La méfiance ou la mise en cause directe qu'on nous adresse régulièrement, là où il est éventuellement question de foi, tout cela nous met mal à l'aise. Nous sommes dans une partie du monde où ce qui fonctionne avec une fiabilité suffisante a en grande partie remplacé ce qui devrait nous motiver par simple confiance. C'est un peu comme si vous entriez dans un taxi et que vous invitiez le chauffeur à prier avec vous pour être sûr d'arriver à bon port parce que les routes sont défoncées et qui vous répondrait que la prière est inutile parce que sa voiture est une Mercedes. C'est fiable, pas besoin de prier. Revenons au sermon sur la montagne, quittons Stuttgart. Il nous faut dire que le décalage entre la loi et nous sera toujours un tiraillement. Ce n'est pas une zone de confort, nous ne pouvons qu'être mal à l'aise. Jésus sait décerner cela chez ses disciples, il les connaît, il nous connaît. Tout comme nous sommes invités à identifier cela chez nous, l'objectif est bien de tenter d'en sortir en vivant en sa compagnie, dans son voisinage, à l'aide du programme ambitieux, exigeant, mais libérateur qu'il nous confie. Être guidé par l'amour, voilà le programme. Et aucune loi ne pourra jamais produire cela. Tout au plus une forme d'obéissance volontaire, dans le meilleur des cas, ça c'est au début, quand on n'a pas pris toute la mesure de ce qu'il fallait peut-être lâcher pour être obéissant. Ensuite, de l'habitude et de l'automatisme, c'est fréquent. Et enfin, une résignation un peu morne le reste du temps. C'est ce que produisent les lois et les règlements. Mais de l'amour, jamais. L'amour est suscité par l'intégration d'un commandement extérieur, c'est vrai. Mais il est manifesté par une liberté de donner qui vient de nous. Et ça ne peut partir que de nous. Il arrive en quelque sorte en bout de chaîne, en bout de processus, comme un produit fini. C'était lui l'objectif. Jésus tente, dans ce sermon sur la montagne, de former ses disciples. C'est-à-dire qu'il leur prescrit une discipline. Vous ne serez véritablement humain et libre que quand vous aurez assimilé ce commandement de l'amour au point qu'il devienne comme une respiration. Vous le vivrez ici ou là, en n'y pensant plus, en n'y pensant pas constamment en tout cas. Vos gestes alors dépasseront la simple obéissance. Ils circuleront en vous comme des nutriments indispensables. Ils vous fortifieront et rendront vos gestes sûrs, guidés par une force suffisante. Ces choses-là viendront chaque fois que vous serez capable d'amour. Ce sera donc un peu soumis à votre humeur du moment. Mais tant pis, semble dire Jésus et Dieu à travers lui, je prends le risque. Tant pis. De toute manière, vous n'obtiendrez pas un meilleur résultat par obéissance pure, parce que vous êtes encore plus imprévisible dans ce domaine. Pas de fatalisme ici, avec un royaume des cieux qui ne vient que parce que Dieu l'a décidé à une heure fixée par lui. Nous ne trouvons rien de tout cela ici. Au contraire, tout cela repose sur nos épaules et s'appuie sur notre bon vouloir. Faillible, épisodique et capricieux, certes, mais notre bon vouloir. Tout au long des Écritures, on rencontre différentes figures de Dieu, mais c'est toujours un Dieu qui cherche l'implication des hommes dans son projet, comme si sa confiance en nous n'était là que pour provoquer la nôtre. La confiance est revenue en lui après un déluge purificateur, parce que ceux qui ont produit ce récit ont compris qu'un Dieu capable de douter de nous et de nous faire à nouveau confiance malgré tout, était le seul capable de nous faire comprendre ce qu'est l'amour, qui sait changer d'avis, capacité d'adaptation, remise en question, souci constant de l'autre, etc. La liste est encore longue, toutes sortes de choses encore dans ce mot amour, sauf l'oubli et l'abandon. Nous pourrions multiplier les exemples, mais je crois que c'est inutile. L'essentiel est de nous rappeler que l'amour prescrit ici, en lieu et place d'une obéissance très aléatoire chez nous, est un processus qu'il faut suivre jusqu'au bout, au bout de nos paroles et au bout de nos actes. C'est quand nous allons jusqu'au bout que nous achevons ou parachevons quelque chose qui relève du royaume. Or, parachever, c'est parfaire. Quand Jésus dit « Soyez parfaits » à la toute fin de notre passage, il ne dit pas « Soyez irréprochables ou moralement parfaits ». Heureusement. Il dit au contraire « Allez jusqu'au bout de vos paroles et de vos gestes d'amour » et dans ces moments-là, le royaume est proche. Au fond, nous ne pouvons avoir foi que parce que Dieu a foi en nous. Alors, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, la prochaine fois que je monterai dans une Mercedes, je suis sûr que j'y penserai. Amen.